D'abord, j'aimerais vous saluer de la part de mon mari, qui habite en Suisse et avec qui j'habite, devinez où j'habite, en Suisse. Et vraiment, de tout cœur, il est avec nous. Et c'est une joie pour moi d'avoir été invitée par Jean et Marie-André pour ce séminaire pour encourager les moniteurs et monitrices. Vous avez des gens de valeur qui s'occupent de vos enfants. Ouais, vous avez de la chance. Mais vous savez quoi? Dans le cœur des enfants, le numéro un, c'est le papa, la maman. Alors, bien sûr, en tant que monitrice, on amène des vitamines. Mais ça ne remplacera jamais le papa et la maman. D'accord? Et dans ce sens-là, parfois, on se fait voler la transmission que vous, papa, maman, grands-parents, oncles, tantes, etc., toute la famille, vous auriez pu donner aux enfants. Parce que notre vie, elle est bourrée. Maman travaille à 100%, papa travaille à 100%, et il n'y a plus le temps, on est sans force pour investir. Alors, j'ai une solution. Yes. Pas pour tout le monde, mais pour certains. C'est la page pub. Vous êtes prêts pour la page pub? Malheureusement, j'en ai qu'un et je le donnerai à Marie-André. Mais Marie-André, elle le prête, n'est-ce pas? Et ça s'appelle Retour. Ça s'appelle Une vision pour la famille. Le gars qui l'a écrit, c'est le top du top au niveau moniteur-monitrice. Guy Zeller. Mais en même temps, il a 5 enfants. Et il sait ce que c'est la transmission de ce qu'on peut investir. C'est pas magique. Les enfants ont leur propre volonté. Il y en a qui prendront, il y en a d'autres qui ne prendront pas. Mais au moins, vous aurez investi. Et comme vous le voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai un marque-page là-dedans. Ça veut dire que je n'ai pas tout lu. J'ai dévoré aussi vite que j'ai pu, parce que c'était avant de partir que j'ai reçu le livre. Et là, j'en suis à un chapitre fabuleux qui dit que les familles sont source de bénédiction. Votre famille, ce n'est pas pour que vous soyez heureux, que vous priez, que vous louez. Non, vous priez et vous louez pour pouvoir briller dans ce monde de ténèbres. Vous et vos enfants. Et ça m'a pas mal touchée. Alors, empruntez le livre, achetez-le dans une librairie chrétienne. Ça s'appelle « Une vision pour la famille » de Guy et de Joël Zeller. Si vous tombez sur des chapitres qui au début vous paraissent, comment ça s'appelle ? Théologique, et puis que ça. Ça fait rien. Passez au chapitre suivant. Le chapitre suivant vous fait... Passez au chapitre suivant. Le chapitre suivant vous fait... Ça fait rien. Au milieu, il commence à être très pratique. Comment on peut établir une discipline dans la famille ? Et il donne des clés pratiques. Et puis, il continue avec la pratique. Comment les enfants sont super malins en sachant que papa, il dira oui pour ça et maman, elle dira non pour ça. Et il explique comment éviter les pièges. Ça, c'était la page pub. Vous êtes formidables, vous avez très bien écouté, Dieu vous bénisse. La page pub n'est pas terminée. C'est toujours un livre que je n'ai pas, mais que vous pouvez trouver. Le docteur Thompson répond à vos questions sur l'éducation des enfants. Ce n'est pas de la théologie. C'est uniquement des exemples vécus où, face au docteur Thompson, il y a la maman qui dit « Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Elle ne dort pas !» D'accord, il répond. Et c'est hyper rigolo, hyper intéressant. Et écoutez bien, messieurs, c'est hyper plein de bon sens. Enfin! Ça, c'était la petite page pub que je ne peux pas terminer sans parler du livre que moi, j'ai écrit. Comment annoncer l'Évangile aux enfants? Et c'est ce que j'ai partagé aux moniteurs et monitrices. Il m'en reste un, mais dans la librairie, il y en a tout plein qu'on peut commander. Puis comme c'est au prix de 8 euros, vous n'allez pas vous ruiner. C'est le but. On a fait exprès un prix pour que tout le monde puisse l'attraper. Et maintenant, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu, ok? On attache sa ceinture, on est prêt, on démarre, allons-y. Le titre s'appelle « Monter au balcon ». Ça, je suis sûre que vous n'avez jamais eu ce titre dans l'église. Je suis cool, il n'y a pas eu ce titre. Et j'aimerais commencer avec la parole de Dieu, d'accord? Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. Soyez, au contraire, transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez voir, afin que vous puissiez discerner, afin que vous puissiez comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux. Alors, un renouvellement pour comprendre avec la perspective de Dieu ce qu'on est en train de vivre. Avec son regard, on peut voir les choses différemment. Parce que si vous écoutez les médias, vous allez plonger dans la déprime. Vous savez, quand vous allez au théâtre, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé. Alors, il y a plusieurs sortes de places suivant comment vous investissez votre billet, si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a le pas cher, alors vous êtes au parterre, c'est-à-dire vous êtes au ras des pieds de tous les acteurs qui sont sur une estrade. Et puis il y a le balcon. Alors là, vous avez une vue plongeante, si vous voyez ce que je veux dire, et un confortable fauteuil pour assister à la scène de théâtre. Au cinéma, c'est pareil, des fois, il y a comment ça s'appelle ? Les fauteuils sont alignés sur un plan incliné. Alors évidemment, si vous êtes en retard, vous allez vous retrouver face à l'écran à 5 cm, ça fait mal aux yeux. On préfère être un petit peu plus loin et avoir une vue panoramique. Eh bien Dieu, il aimerait vous faire monter à son balcon. Il aimerait que vous arrêtiez de regarder vos épreuves et vos crèves-cœurs au ras des pâquerettes. Parce que il y a trois zones qui émettent dans votre tête en permanence. Il y a Radio Jésus, alléluia. Il y a Radio Satan, pas alléluia. Et puis il y a Radio Blabla, moi. D'accord ? Et nous, on veut capter Radio Jésus. Mais parfois, il y a des, comment ça s'appelle ? Des parasitoses. Si vous n'avez pas capté la bonne fréquence, eh bien, vous risquez de plonger soit dans l'un, soit dans l'autre. Suivant votre caractère, vous allez plonger. Culpabilité, dépression, ou bien, c'est dégoûtant, c'est pas possible. Alors ça, j'accepte pas, c'est injuste. C'est colère, colère et exaspération. Quand vous êtes sur la voiture, je suis sûre que c'est plutôt colère et exaspération quand on vous fait une queue de poisson. Mais comment découvrir et recevoir le sens de nos épreuves en montant un peu plus haut? Pour vivre ce renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas l'affaire de 5 minutes. Ce n'est pas une prière. « Oh, donne-moi le renouvellement !» Amen. Non, non, non. Ce renouvellement, Dieu veut vous l'accorder, mais il ne va pas l'accorder en 5 minutes. C'est un travail long terme, ok ? C'est pas grave que ce soit long terme, parce que plus c'est long terme, plus c'est vrai, plus c'est profond, et plus ça prend de la place. Il y a un pasteur qui s'appelle le pasteur Groschel, qui dit que ce renouvellement, pasteur Groschel, on devrait le chercher. Le renouvellement de notre intelligence, aller au balcon de Dieu, comme une priorité dans nos vies. Pourquoi ? Et le pasteur explique, ce que je pense a un impact direct sur mes actions. Mes actions, ce que je fais, auront un impact direct sur mon moral. Et c'est pour ça que vous devez chercher le renouvellement, la vision de Dieu pour vous et pour vos familles. Alors, on est d'accord, ce renouvellement se fera pas intellectuellement. Ça sert, c'est utile, mais ça suffit pas. Il faut, je vous en supplie, que vous criez à Dieu en disant « Mais donne-moi ce renouvellement, je ne suis pas capable de le créer, je ne suis pas capable de l'inventer, mais toi tu es lumière, il paraît que celui qui marche à ta suite ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, alors s'il te plaît, fais quelque chose, éclaire. » Il y a un verset qui est mon verset chouchou, on a tous notre verset chouchou. C'est dans Jacques 1, 5. Dieu donne la sagesse à ceux qui le méritent. Non, tout faux. Je vous ai donné une version Satan. Pas du tout. Dieu donne la sagesse, et c'est écrit dans ma Bible, à ceux... Ah, je savais que vous saviez. À ceux qui le demandent. Mais vous êtes tellement gentils que vous n'avez pas voulu me contredire. Vous êtes super. Mais il ne faut pas être trop super. Si je dévie, contredisez. À ceux qui le demandent. Et il la donne. Attachez votre ceinture, ça va vous scotcher. Il la donne généreusement. Il la donne sans reproche. Vous savez, le prof, il vous dit, mais comment, tu sais pas ça, on est en classe machin, et tu devrais savoir ça depuis la classe, dadada. Non. Dieu, il vous comprend. Et la compassion, il veut vous aider. Il vous jette pas la pierre, comme on dit. Et Dieu veut vous donner une relecture des événements qui vous ont perturbé, qui vous ont crucifié. Il veut éclairer et vous consoler. Alors, on est d'accord. Dans nos vies, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Un accident, une maladie, une perte d'emploi, un deuil, ça vous tombe dessus. Et pour en comprendre le sens, suppliez Dieu qui vous éclaire. Vous savez, je commence à avoir trouble avec mes lunettes. Et je me dis, il faudra que je retourne chez l'oculiste, parce que c'est le grand fabricant de lunettes, n'est-ce pas, pour que je puisse à nouveau voir clairement. Et moi, je vous envie, vous courage de tout mon cœur à monter au balcon du grand fabricant, pour qu'il vous donne des nouvelles lunettes pour voir, comprendre ce qui arrive à votre famille, ce qui arrive à votre vie, ce qui arrive dans votre pays. Parce que des fois, on s'arrache les cheveux. Et si vous ne montez pas, vous allez avoir votre propre interprétation. Et ça tourne autour de deux axes, suivant votre caractère. Il y aura des mensonges hyper décourageants qui vont venir pour détrôner l'amour de Dieu dans vos vies, dans vos cœurs. Comment Dieu pourrait m'aimer avec tout ce qui m'est arrivé, m'a bien laissé tomber. C'est ça les conclusions qu'on en tire. Quand on est un peu comme ça, côté déprime. Mais si vous êtes du côté « je me bats et je me battrai jusqu'à la mort », il y a des gens, c'est plutôt l'autre côté. Il peut y avoir des mensonges non pas décourageants, mais accusateur. T'as fait quoi pour mériter ça? Vous avez déjà entendu ce genre de réflexion dans votre tête? Ah ben c'est bien toi qui as provoqué ces situations. Si t'avais pas dit, ou au contraire, parce que tu n'as pas dit, au moment où il fallait dire, excusez-moi, même si vous aviez une responsabilité dans ce qui vous arrive, là, attachez votre ceinture. Vous pouvez la reconnaître. Arrêtez de vous justifier. Arrêtez. Reconnaissez que oui, d'accord, peut-être j'ai fait et j'ai dit. Et présentez-vous au balcon de Dieu en disant, Seigneur, c'est irréparable. Pardonne-moi. Et Dieu rend l'impossible possible. Il retourne la crêpe, si vous voyez ce que je veux dire. Et le pasteur Groschel, qui m'a beaucoup inspiré pour ce message, propose deux angles d'attaque. Hyper cool, hyper facile, hyper connu, je suis d'accord. La parole et la louange. Ok. Le plongeon dans la parole, la Bible, va renouveler vos pensées. Comptez sur le Saint-Esprit pour que votre lecture vous parle. J'aimerais vous donner un petit exemple vécu de comment Dieu m'a parlé au travers de la parole. J'étais au tout début de mon travail parmi les enfants et je suis plutôt évangéliste d'enfants que monitrice. Ok. Il faut tout sur terre. J'en faisais une petite fête de kermesse à la fin du club d'enfants qui avait eu lieu toute l'année à Grasse, dans le sud de la France. Et on avait préparé des tas de petits jeux sympas pour que les enfants aient du plaisir. On était trois monitrices, on est arrivés, on a tout mis, les quilles pour qu'ils puissent jouer et tout ça. Et à ce moment-là, alors qu'on avait commencé à jouer avec les enfants, puis que ces petits, ils avaient beaucoup de plaisir, il y a des gros ados de 11 ans, pré-ados d'accord, mais quand même, qui sont venus et qui ont commencé à piétiner tous les jeux. Et c'était facile parce qu'ils étaient en carton, alors tchac ! On a dû renvoyer les enfants, arrêter la fête et rentrer la tête basse. Et ils n'étaient que trois. Et on était tellement, comment dire, mal, découragés, qu'on ne se parlait même plus les uns aux autres. Et vous voyez ce que je veux dire. Et alors qu'on rentrait la tête basse, il y a un verset qui a commencé à taper ma tête. « Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. » Je me suis dit, je ne vois pas le rapport. Franchement, je ne vois pas le rapport avec ce qu'on est en train de vivre. Mais enfin, je sais que ça, c'est un verset, quelque part. J'ai été voir dans ma Bible et j'ai trouvé le verset suivant. « Réjouissez-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, quand on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Matthieu 5, 12. Waouh ! J'ai pas pu monter au balcon de Dieu, vous comprenez ? J'étais tellement écrasée de honte et tristesse et même colère que ça soit passé comme ça, que Dieu, il a eu pitié et m'a monté à son balcon. Et Paul nous exhorte à vivre dans la louange. Vous connaissez ce verset ? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et comme il voit qu'on n'a pas tout à fait compris, il dit, et je le répète, réjouissez-vous. C'est dans Philippiens. C'est un beau verset pour une carte d'anniversaire, pour un magnet sur votre frigo. Mais, excusez-moi, quand votre voiture ne démarre pas, ou que vous avez un soupçon que votre carte bancaire est piratée, et que votre copine chrétienne vient vers toi et te dit « Réjouis-toi dans le Seigneur, il est écrit, réjouissez-vous toujours !» Vous avez envie de lui dire « Et toi, tu te réjouis quand ta voiture elle est taguée ?» Celui qui a écrit ce verset s'appelle Paul. J'ai été voir si Paul se réjouissait dans les circonstances où ça va pas fort. J'ai été voir dans les actes, acte 16, comment il mettait cette joie dans les circonstances contraires. Et il vient de délivrer une dame d'un esprit de division, de divination. Elle raconte des grosses prophéties, mais genre affreux, ou genre... C'est la vérité, mais je mets une cuillerée de mensonge dedans, puis je remue dedans. Comme ça, t'es complètement dans la confusion. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il l'avait délivré. Et le résultat, c'est que son maître, il s'est tellement fâché qu'elle fait plus de prédictions, et puis qu'on récolte des sous pour que les gens viennent voir la boule de cristal, si vous voyez ce que je veux dire, qu'il a fait mettre en prison Paul en l'accusant avec des trucs faux, et son copain Silas, qui était son coéquipier. Et là, ils sont au fond du trou dans la prison. On vient de les tabasser avec des bâtons. Ils sont dans cette prison, enchaînés. Il fait noir, il fait froid, c'est humide. Et si vous avez mis les pieds dans une prison tiers-monde, ça pue. Dans nos prisons, c'est lumineux, mais quand même, ils ne sont pas heureux, je vous garantis. Demandez à Marie-Andrée. Et là, ils chantent, ils louent le Seigneur. Pourquoi ? Excusez-moi, je ne vois pas tellement la raison de louer, c'est injuste qu'ils soient en prison. Ils ont fait tout juste. Eh bien, tout simplement, même s'ils sont couverts de sang, même si on leur a cassé des côtes, et c'est très douloureux, même s'il n'y a pas de médecin, s'il n'y a pas d'antidouleur, ils sont là et ils remercient Dieu pour qui il est. Dieu, t'es tellement fidèle. On t'aime, on croit en toi. Et ils sont là en train de louer le Seigneur. Tout à fait autre chose que d'être au culte, confortable, bien chauffé et tout. Ils louent le Seigneur. Mais si tu places ta joie, pas dans les circonstances, parce que vraiment, des fois, c'est pas joyeux, mais en Dieu, quand tu es au fond du trou, il va se passer quelque chose. Dans cette prison, il s'est passé quelque chose. Dieu, il les a vus en train de saigner, d'avoir mal, et il louait le Seigneur. Mon vieux, il était enthousiasmé, Dieu. Il s'est tellement enthousiasmé qu'il a secoué toute la prison. Il y a eu un gros tremblement de terre. Toutes les portes se sont ouvertes. Tous les verrous ont sauté. Si tu loues Dieu au fond de ton trou, dans le désespoir, il va faire sauter les verrous de la déprime. Il est incroyable. Dieu est incroyable. Son but, c'est de t'aider à sortir du trou noir et à faire luire sa lumière sur toi. Et pour que cette lumière t'éclaire, il faut que tu te branches sur « Je voudrais monter au balcon, mais j'y arrive pas. Au secours !» Ça marche. Ou bien « Je monte au balcon et je crois en toi. Alléluia !» Les deux marchent. Vous savez, quand vous travaillez dur pour avoir un diplôme, et réussir à avoir cette place de travail qui vraiment va vous mettre à l'aise. Et puis vous bossez à mort, vous avez le diplôme. Et c'est votre collègue qui n'a même pas le diplôme qui prend la place. Est-ce que ce n'est pas injuste ? Totalement injuste ! Mais sur cette terre, je suis désolée de le dire, il y a trop d'injustices. Ou bien vous aimeriez vous marier ? Mais la bonne personne ne se profile pas. Et vous restez célibataire. Ou bien vous vous mariez. Ah, il y en a, tous les célibataires se disent, ouais, injuste. Pourquoi lui, pas moi? Et ça ne se passe pas comme ça devrait. Ça arrive. Ou bien vous avez prié pour la conversion de quelqu'un dans votre famille et puis il n'y a rien qui a bougé. Et dans ces circonstances-là qui vous font du mal, je vous invite à monter au balcon de Dieu. Est-ce que c'est moi qui vous invite ? Qui vous invite ? Pardon ? Oui, oui. Parfois, ça sera Jésus, parfois, ça sera le Saint-Esprit, parfois, ça sera le Père. Il vous invite ! Ne ratez pas l'invitation. Si on monte à ce balcon, tout va changer. Les circonstances vont arrêter de vous écraser. Un jour, J'étais en train de faire de l'évangélisation en Afrique parce que je suis branchée sur l'Afrique parce que mon mari, c'est Monsieur Afrique. Et moi aussi, je suis Madame Afrique. Non, c'est... à la longue, je suis devenue Madame Afrique. J'étais en Afrique en train de faire de l'évangélisation des enfants. Et j'avais à cœur que ça perce. Je me suis dit, pour ça, il faudrait de la prière. Alors j'ai été voir le responsable du camp. Je lui ai dit, tu sais, tous les matins, on fait des petites cellules de prière. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des cellules qui sont composées de moniteurs? Comme ça, entre eux, ils pourraient viser les sujets de la journée. Et le directeur m'a dit, écoute, l'an dernier, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ceux qui s'occupent des enfants. Ils ont voulu faire un état dans l'état. Non, on ne sépare pas, on les met tous ensemble. Je suis sortie. J'étais dans la cour, assise sur le béton, et je pleurais. Il n'y aura pas de prière. Ça ne va pas percer. Et je suis montée au balcon et j'ai dit, tu vois, ce coup-ci, le diable, il a gagné. Et à ce moment-là, dans ma tête, il y a un chant qui est venu. Et ce chant disait, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Un vieux chant que vous, les plus anciens, vous connaissez. Et à ce moment-là, Dieu m'a dit, laisse tomber, je m'en occupe. Ça m'a fait un de ses biens. Waouh ! Si Dieu est dans la barque, si Dieu s'en occupe, même qu'il n'y a pas de prière dans la structure que j'aurais voulu imaginer, il y aura quelque chose, autre. Et l'évangélisation a percé. Et c'était fabuleux. Monter au balcon de Dieu ne va pas vous conduire toujours à laisser tomber. Parce que Dieu, il est créatif. Et suivant la situation où vous vous trouvez, il va vous faire réagir tout à fait différemment. Permettez-moi, afin d'équilibrer ce que je viens de dire, avec un autre exemple, où j'étais en Afrique, où j'étais dans l'évangélisation enfant. Et on avait des cars, des grands bus qui nous emmenaient sur le lieu d'évangélisation, qu'on avait loué, parce qu'on était loin de l'évangélisation, là où on habitait. Et chaque jour, le car arrivait toujours plus tard. Jamais à l'heure, mais toujours plus tard. Et puis nous, bien gentils, on attendait. Et à un moment donné, le diable, quelque chose a percé dans mon cœur. J'étais en train de lire un livre en attendant que le bus arrive. Et ce livre s'appelait « Lève-toi et combat ». Et c'est comme si le Seigneur attirait mon attention en disant « Hé, hé, c'est pas le moment de dormir ». C'est un combat, tu es en train de te faire voler des heures d'évangélisation, là. Et j'ai réagi. J'ai fouillé mes poches, j'ai trouvé un peu d'argent en CFA, et je l'ai donné à mon chef d'équipe, et je lui ai dit, tu prends un taxi Bruce, et tu fonces, t'emmènes l'équipe. Et l'évangélisation n'a pas été volée. Donc c'est pour vous dire que Dieu, il a envie de vous dire plein de choses. Capter, insister, tirer sa manche, afin d'y voir clair. Ce n'est pas un oreiller de paresse que le balcon. Il y aura des trucs où vous devrez vous mettre en route et vous battre. Je ne peux pas terminer sans vous dire un dernier élément. Oui, il faut la louange. Oui, il faut la parole de Dieu. Oui, ça serait super que vous arrêtiez de simplement la méditer, mais que vous commenciez à la mémoriser. C'est comme, vous savez, il paraît que l'épée, c'est comme une épée à double tranchant. Tchou, tchou. Là, on vient de voir un super film qui s'appelle Le petit âne de Jésus.
L'étoile.
L'étoile de Noël. Et le méchant, il a une épée, mon vieux, avec des trous comme ça. C'est très dangereux. On va vers des temps pas faciles. Je ne sais pas où on va. Mais vous avez besoin de mémoriser la parole afin que quand il y a une brique qui vous tombe sur le coin de la figure, vous puissiez réagir tout de suite. L'un de mes héros favoris, c'est un évangéliste parmi les enfants, c'est normal. Vous avez peut-être d'autres héros, hein ? Il s'appelle Bill Wilson. Qui connaît ce monsieur, Bill Wilson ? 1, 2, 3. Ok, laissez-moi vous le présenter. C'est un gars qui travaille à New York, dans la rue, là où il ne faut pas mettre les pieds, c'est-à-dire là où il y a tous les dealers, là où il y a tous les prostituées, là où c'est dangereux. Et lui, à l'âge de 12 ans, sa mère qui était alcoolo l'a abandonné dans la rue. Et je ne sais pas si vous voyez, mais un gamin de 11-12 ans dans la rue, qui attend que sa maman revienne, puis maman qui ne revient pas, eh bien, il est sans force. Et il a attendu un jour, deux jours, trois jours au même endroit. Jusqu'au moment où il y a un chrétien qui allait à son boulot, qui revenait du boulot, qui allait à son boulot, qui a enfin vu que ce gamin, ce n'est pas normal, il est toujours là. Et il a parlé avec lui. Il a compris ce qui se passait. Et il a pris ce petit gamin et l'a envoyé dans le camp chrétien qui venait de démarrer. Et là, ils ont pris soin de lui, ils lui ont parlé de l'évangile, et tout de suite, son cœur, waouh, s'est ouvert. Et il s'est converti. Et l'Église l'a, en quelque sorte, adopté. Et il a grandi. Et il est devenu un jeune homme qui avait envie de foncer pour Jésus. Puis, bien sûr, il a foncé dans l'école du dimanche. Puis là, il se sentait un petit peu, comment dire, pas à sa place. Son cœur était dans la rue. Son cœur était auprès des enfants non chrétiens. Alors il a dit, moi, l'école du dimanche, je la fais dehors. Ok, vas-y. C'était une église où tu peux faire tout ce que tu veux, du moment que c'est pour l'évangélisation. Et il a créé une méthodologie tellement super, tellement novatrice, tellement révolutionnaire, qu'il avait tous les gamins hyper gentils, alors que dans la rue, dans le Bronx, c'est pas les hyper gentils que tu vas rencontrer, si vous voyez ce que je veux dire. Mais à cause de sa méthodologie, les enfants, ils étaient « Waouh, c'est quand la prochaine session ?» Et petit à petit, il s'est entouré d'une équipe. Et le nombre d'enfants a monté, monté, monté. Au point que, quand il voulait les rassembler une fois par semaine, ils étaient toujours plus nombreux. Là, quand j'ai assisté à son séminaire, il y avait une église d'enfants de 20 000 enfants. Oui. Alors là, moi, je disais, yes, je suis assisté au séminaire, et quand je reviens, j'applique toutes les méthodes, et j'aurai 20 000 enfants. Je doutais de rien. Mes amis, il n'a pas voulu nous donner sa méthodologie révolutionnaire. J'étais là, je disais, non, papa, j'ai fait tout ça pour aller à ce séminaire à des kilomètres et il refuse. Il disait, non, je veux vous motiver. Je suis motivée, donne ta méthode. Et il a simplement raconté ce qu'il vivait sur le terrain. Il risque sa peau à chaque fois qu'il va sur le terrain. Il s'est fait tirer dessus. Et ils ont visé la tête pour le tuer. Mais la balle, elle est rentrée dans sa joue et elle est sortie de l'autre côté. Ils lui ont lancé une brique. Ça a détruit un de ses yeux, un de ses yeux. Certaines de ses collaboratrices monitrices ont été violées. Il faut bien comprendre, ce n'est pas des enfants de cœur, c'est le Bronx. Et à un moment donné, il a dit « Dieu, c'est trop, j'en peux plus, je pose les plaques, je pars, je disparais, fini. » Parce que cet œil qui était complètement énucléé, il n'avait pas de sécurité sociale pour se faire soigner. Voilà. Et dans la nuit, Dieu l'a guéri. Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve. Et prépare un moyen d'en sortir. Et quand j'ai écouté toutes ces histoires, j'ai compris. Ce n'est pas la méthodologie révolutionnaire. Ce gars, il est prêt à mourir pour les enfants. C'est la croix dont tu as parlé dans la louange. Et je me suis dit, waouh, je veux m'accrocher au manteau de ce gars. J'en suis pas à ce niveau, mais je veux avancer dans cette direction. Vous comprenez? Et je ne peux pas terminer ce message sans vous dire, oui, cherchez à monter au balcon. Oui, louez Dieu quand vous êtes dans le trou. Vous savez, à un moment donné, j'étais dans le trou. J'étais en Afrique, j'étais dans l'évangélisation enfant, et puis on avait des petits moyens de transport pour se rendre à droite et à gauche. Et quand moi je me suis profilée pour avoir mon petit moyen de transport avec mon équipe enfant, le responsable m'a dit « Ah ben trop tard, tous les moyens de transport sont alloués à l'évangélisation adulte. Mais enfin, il me reste un 4x4, mais je te préviens, si tu fais un accident ou que tu cognes la voiture, toi qui rembourses. » J'étais là, avec mon degré de conduite, c'est sportif en Afrique. Est-ce que je vais y arriver? Je lui ai dit, non, merci. Mais le lendemain, j'étais dans la louange, puis j'étais, waouh, pas d'évangélisation, enfant. Parce que je ne suis pas foutue de prendre le volant, j'y arrive pas. Puis j'ai décidé de louer le Seigneur. Puis en Afrique, quand vous louez le Seigneur, ce n'est pas comme chez vous. Il danse. Alors, le visage trempé de larmes, je dansais, je louais, je chantais. Et le cher directeur m'a fait venir et m'a dit, on a trouvé un chauffeur. Il me connaissait, il savait que j'étais incapable de conduire. Et il a trouvé un super chauffeur dans le genre 21 ans. Conduire sportif, no problème. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu veut t'encourager ce matin. Et il te dit tout simple, je sais qu'il y a des crève-cœurs que tu n'as pas compris, que tu portes. Et c'est aussi affreux que si sur ton dos tu avais ça. Et quand tu fais de la marche, des fois tu as ça sur le dos. Et quand t'es à la militaire, ben, je te garantis, je sais pas, ils mettent 30, 40 kilos, ils sont complètement fous. Et t'es là, et t'avances péniblement. En tout cas, moi, quand je fais des marches, puis que j'ai mon sac à dos, je suis en queue de peloton. Puis mon mari, il a pitié, parce qu'il voit que franchement, j'y arrive pas. Alors il me dit, passe-moi le truc. Et quand je lui passe, alors là, je gambade, je suis devant, hein. Qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos? Qu'est-ce que tu transportes? Ben Jésus, il a envie que tu viennes à la croix et que tu poses le fardeau. Alors, il y aura deux façons de le poser. Il y en a, ils n'ont pas un fardeau dans le truc, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu beaucoup de choses où dans leur vie, ça s'est vraiment, vraiment mal passé. Et là, il faudra poser le sac et commencer à dépiauter, un par un, à la croix, à la croix, à la croix. Parce que Dieu, il te comprend. Il sait que tu n'as pas compris. Il sait que c'est injuste. Il sait que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Mais il t'appelle à venir et à dire, je veux monter au balcon, aide-moi. Mais c'est trop lourd avec ce sac, j'arrive même pas à monter au balcon. On va prier. Seigneur, sur cette terre, c'est une vallée de larmes. Ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas la justice qui est inscrite dans nos cœurs, mais c'est les injustices qui nous tapent. C'est les chocs qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Parfois, c'est de notre faute, parfois, ce n'est pas de notre faute. Mais ça fait rien, Seigneur. On vient parce qu'on est courbé sous le poids. On a mal. Et ça nous empêche d'avancer dans notre vie chrétienne. Oui, on avance. Oui, on vient à l'église. Oui, on prie. Oui, on lit la Bible. Oui, on loue le Seigneur, c'est vrai. Mais on est comme ralenti. Jésus, on veut être honnête. Ça ne va pas bien. Et je vous invite alors qu'on a les yeux fermés. Et je vous demande de fermer les yeux. Parce que c'est entre toi et Dieu, c'est pas entre toi et ton voisin. Lève la main en disant « J'arrive pas à monter au balcon. Aide-moi. Prends ma main. J'arrive même pas à voir ce qu'il y a dans mon sac parce qu'il y a tellement dans mon sac, il y a trop. Mais je te prie, ce matin, d'avoir pitié de moi. Je reconnais que j'y arrive plus. Je reconnais que j'essaie, mais j'arrive plus. Et mes amis, j'ai déjà la main en l'air, moi. Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas bien compris, pas bien avalé, pas bien digéré. Et où je peux pas digérer. Mais où j'ai besoin de monter au balcon et avoir une vue plongeante sur ces épreuves, sur comment Dieu, tu peux retourner les épreuves pour en faire quelque chose de beau, de bien, de super. Et plus vous êtes âgés, plus il y a beaucoup. Et j'aimerais simplement qu'on lève la main. Et maintenant, Saint-Esprit, j'aimerais que tu libères sur ceux qui ont eu le courage de lever la main. De lever sur eux des anges guerriers qui les entourent, qui les portent, qui les soulèvent jusqu'à connaître l'intimité avec le Père. Et qu'il y ait un échange, que le sac soit vidé. Au pied de la croix, où il y a eu injustice. Il n'aurait jamais dû avoir Jésus là-haut, sur cette croix. Mais il l'a fait pour prendre tes injustices qui t'ont brimé, détruit. Il a vu, il connaît et il veut t'aider. Et maintenant, Saint-Esprit, ce n'est pas en un quart de seconde que tu vas faire les choses, mais dans la semaine qui vient, dans les semaines qui viennent, je prie pour des révélations. Je prie pour que tu consoles, que tu panses ces plaies béantes, que tu guérisses à ta façon incroyable et que dans nos intelligences, ça se remette en place, qu'on puisse de nouveau croire que tu nous aimes parce que c'est ça qui est visé. On n'arrive plus à y croire. Et on a beau faire de toutes nos forces, on n'y arrive plus. Et je prie que tu portes, comme le berger portait sa brebis blessée, que tu portes jusqu'à l'enclos de toutes les autres brebis, la brebis qui a été attaquée, déchirée. Je te prie ça dans le nom puissant de Jésus. Et alors que vous avez encore la main levée, il y a simplement un mot que j'aimerais qu'on prononce tous ensemble, ceux qui ont la main levée, les autres, s'il vous plaît, taisez-vous. Ce mot, c'est merci. 1, 2, 3. Merci. Amen. Vous pouvez baisser la main. Dieu va agir.